Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous recevons Léa Weinstein, productrice du podcast « Seul l'espoir apaise la douleur » avec le témoignage bouleversant de Simone Veil. Bonsoir Léa.
Bonsoir Sandrine.
Alors nous sommes ravis de vous accueillir dans cette émission. On va dire quelques mots de présentation pour vous présenter, hein, pour commencer, et vous m'interrompez s'il y a quelque chose qui n'est pas correct. Alors on peut dire que la question de l'identité est le fil conducteur de vos engagements. En 2015, vous soutenez une thèse de philosophie sur le thème « Penser la métamorphose, quatre lectures de Kafka dans la philosophie allemande, Benjamin, Adorno, Arendt et Anders ». Vous pouvez nous en dire un mot ? Pourquoi avoir choisi ce sujet ?
Alors, pourquoi avoir choisi ce sujet ? Parce que j'hésitais quand j'étais jeune étudiante. J'étais toujours en train d'hésiter entre la philosophie et la littérature. Et Kafka, très jeune, a fait partie de mes constellations adorées. Et donc, quand j'ai découvert qu'il y avait un certain nombre de philosophes de langue allemande qui écrivaient sur Kafka, je me suis dit que c'était un sujet qui me permettrait de rassembler plusieurs de mes passions. Et donc, cette thèse, c'est ça, c'est pourquoi Kafka par des philosophes.
La philosophie est restée une passion puisque par la suite, vous devenez productrice de podcasts pour Arte Radio. Auparavant, vous passez par France Culture. Pourquoi ne pas avoir continué dans la philosophie pure ?
Alors, je pense qu'on n'arrête jamais vraiment la philosophie, mais j'ai pas continué en effet dans la voie académique qui était celle, qui était peut-être la plus naturelle après la thèse. Pour une raison, je vais vous parler très franchement, d'abord parce que c'était dur en fait. Il y a très peu de postes en philosophie en France. Mmh. Et je me sentais pas le courage d'être, comme on dit, ATER, c'est-à-dire chargée de cours à l'autre bout de la France, ouais, pendant 5 ou 6 ans. Et puis, parallèlement, j'avais cette passion de la radio que j'avais depuis l'enfance. Et donc, j'avais commencé à faire quelques documentaires à côté de la philosophie. Et petit à petit, la radio a pris plus de place. Et les hasards de la vie ont fait que c'est devenu un peu mon métier.
Alors, on vous connaît aussi pour être l'auteur avec un E ou l'autrice, hein, ça dépend comment on le prononce, d'Isaac, qui est apparu aux éditions Grasset. Et en fait, vous rendez compte d'une enquête familiale que vous avez menée sur les traces de votre arrière-grand-père, rabbin, et dont vous ne savez rien.
Oui, tout à fait.
Mais c'est intéressant, ça aussi, dans l'histoire, justement, de la transmission.
Oui, en fait, j'ai commencé, vous voyez, à travailler sur Kafka, sur ces philosophes de langue allemande, mais tous juifs. Ensuite, toujours par des hasards de la vie, je me suis retrouvée à travailler au mémorial de la Shoah, à travailler sur le témoignage et à beaucoup questionner cette période de l'histoire. Et puis, à un moment, je me suis dit, et moi, en fait, quelle est mon histoire ? Pourquoi est-ce que j'ai tendance à aller vers ça ? Et il y avait un silence, comme dans beaucoup de familles juives françaises après-guerre, il y avait un silence et un déni énorme dans ma famille, donc je ne savais rien. Il y avait juste ce personnage d'arrière-grand-père très mystérieux, presque un personnage de fiction, si vous voulez, qu'on citait dans les réunions de famille un peu comme une boutade, parce qu'on était tellement loin du judaïsme et de toute pratique religieuse que c'était presque une blague de se dire qu'on avait un ancêtre rabbin. Et un jour, je me suis dit, mais quelle est la vérité derrière cette blague ? Et donc, l'enquête a commencé sur ce personnage qui s'appelait Isaac Savelski et qui était donc Razan dans la synagogue de la rue Ansel à Neuilly. Et cette enquête, était à la fois une enquête familiale, mais aussi une enquête historique sur cette question du silence sous l'occupation, et aussi sur des questions plus complexes encore historiquement, puisque Isaac a survécu et Isaac a surtout décidé de continuer sa pratique et il a maintenu cette synagogue ouverte pendant les années de l'occupation. Donc ça, quand on l'a découvert, c'était un fait très surprenant par rapport aux représentations qu'on a de cette période. C'est aussi un livre qui essaye de questionner les nuances de cette histoire.
et de l'identité. Alors, vous disiez il y a un instant que vous étiez proche du mémorial de la Shoah et vous avez notamment été commissaire de l'exposition La Voix des Témoins à l'occasion du 75e anniversaire de la découverte des camps. Et votre actualité, hein, qui nous vaut votre présence aujourd'hui ici, c'est que vous êtes la productrice du podcast « Seul l'espoir apaise la douleur » produit par l'INA. Donc, c'est une série d'entretiens filmés qui s'appuie sur le témoignage exclusif de Simone Veil, enregistré dans les locaux de Bry-sur-Marne en 2026 dans le cadre de ces entretiens patrimoniaux de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Alors, comment on en vient à être associé à cette expérience de transmission de la mémoire et ces témoignages ?
Je pense que j'ai été associée à ce projet en effet parce que j'ai été commissaire d'une exposition au mémorial qui s'intitulait La Voix des Témoins et qui justement reposait sur l'idée que les témoins sont présents aujourd'hui à travers leur voix et donc à travers l'écoute. Et à ce moment-là, encore une fois, voilà, deux des passions qu'on a évoquées se sont croisées, c'est-à-dire le son, la voix, la radio, et cette période de la Shoah à travers le témoignage. Alors ensuite, l'INA est venue vers moi par l'intermédiaire aussi de Dominique Missika, que je voudrais citer et encore une fois remercier, qui, elle, était en fait... À l'époque, en 2006, quand cette collecte de témoignages a eu lieu, c'était un projet conjoint INA et Fondation pour la mémoire de la Shoah, comme vous le disiez. Et l'idée, c'était de faire vraiment une collecte de témoignages, c'est-à-dire de choisir. Il y a plus de 100 témoins qui sont tous des rescapés de la Shoah et qui témoignent face caméra, répondant à des questions. Voilà. L'idée, c'était vraiment de constituer des archives, si vous voulez, pour après.
Il y a quelque chose de visionnaire, hein. Je voulais vous poser la question par la suite. Aujourd'hui, quand on est historien ou simplement quand on travaille sur ces sujets-là, on se pose la question de comment transmettre après la disparition de cette génération. Et là, déjà, vous aviez anticipé donc, la Fondation pour la mémoire et l'INA, et puis Simone Veil, qui était quand même présidente à l'époque de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, à cette question, comment transmettre l'indicible quand les témoins auront disparu ?
Tout à fait, voilà. Il s'agissait vraiment de fabriquer des archives pour après. Et donc Simone Veil, en effet, à ce moment-là, elle est présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, donc elle est directement associée à ce projet, qui est piloté à l'époque par Dominique Missika. Et donc, par rapport à votre question, ce qui est intéressant, c'est de se dire que Simone Veil, à ce moment-là, bien sûr, on est en 2006, donc elle est la femme politique, la célébrité qu'on connaît tous, mais elle est aussi présidente de cette fondation et elle a cette conscience de constituer des archives pour après. Et donc, ce qui est très bouleversant, à mon sens, dans ce document, c'est que Simone Veil va témoigner en disant, dès le départ, je ne veux pas que ce témoignage soit diffusé de mon vivant. Donc, c'est vraiment une parole qui se fabrique pour après. Et alors, j'ai posé la question à Dominique Missika, qui, elle, était présente dans les studios quand ce témoignage a été enregistré. Je lui ai demandé, mais à ton avis, au fond, pourquoi elle n'a pas voulu que ce soit diffusé de son vivant, contrairement à d'autres témoins, qui, eux, témoignent et ne précisent pas, et donc l'archive pourrait être diffusée de leur vivant. Ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et Dominique Missika a fait cette hypothèse que je trouve vraiment intéressante et touchante. Et c'est qu'elle a dit, Simone Veil disait que si on diffusait son témoignage à elle, les gens ne regarderaient que le sien. Ils ne regarderaient pas les 102 autres témoins qui sont peut-être moins connus, mais qui pour autant ont une parole à porter autant qu'elle. Donc c'est une manière pour elle
De laisser la place
laisser
aussi
la place
à la parole. Exactement. Est-ce que c'était le premier enregistrement ? Est-ce qu'il y en a eu d'autres avant elle ? Parce que cet enregistrement a eu lieu le 9 mai 2006. C'est Catherine Bernstein, la réalisatrice, qui lui pose les questions. Elle se livre sans détour, avec une grande franchise et dans la précision des détails. Ce qui est intéressant aussi quand on visionne, c'est qu'on est face à une grande dame qui est sûre d'elle, mais en même temps qu'il y a des hésitations. Il y a parfois des phrases qui ne sont pas terminées, des silences... des petits bégaiements. Et tout ça rend touchant, évidemment, ce témoignage. Est-ce que c'était le premier ? Est-ce que vous savez si elle a...
Non, je crois pas. Je crois que c'était pas la première à enregistrer ce témoignage. Je pense qu'elle était même plutôt dans les derniers. Mais est-ce qu'elle avait pour autant vu ou eu des échos des autres ? C'est pas sûr. Donc, y a quelque chose pour elle. Et moi, ce que je trouve aussi assez incroyable... En effet, il y a ces silences qui sont... qu'on a conservé d'ailleurs dans la version podcast de l'entretien pour la plupart, parce qu'ils sont très signifiants, ces silences. Ils disent des hésitations et ils disent, je pense, des moments aussi de souvenirs. On se souvient avec elle quand on l'entend se taire, en fait. Il y a quelque chose de très, très fort là-dedans.
Ce qui est très fort aussi, c'est que ce n'est pas uniquement la période... de la Shoah qu'elle vit. C'est toute son enfance que finalement, même si on a lu des livres d'elle qui ont déjà paru, on ne savait pas. Elle raconte vraiment son lien intime avec sa maman. Elle était quasiment fusionnelle, elle est la petite dernière. Le papa qui était plus dur. Mais quand même, on voit qu'avec ses frères et sœurs, il y a une assise familiale solide qui peut peut-être expliquer qu'elle n'a pas vacillé après la Shoah. Est-ce que ça peut être ça une explication ? Pourquoi elle est restée si forte ? Elle a témoigné jusqu'au bout comme ça, avec une force incroyable.
Oui, en effet, elle a des bases solides dans son enfance et elle en parle de façon en effet très belle dans ce témoignage. Je pense qu'il y a aussi quelque chose dans sa personnalité qu'on entend dans ce témoignage, à mon sens, alors qu'on connaît par ailleurs chez elle dans la carrière politique qui a été la sienne, etc. Mais moi, ce que je trouve assez incroyable dans la façon dont elle témoigne et qui montre cette force aussi de caractère, on peut dire, c'est que elle a, moi, le mot que j'ai trouvé qui me semble le plus juste, c'est irrévérence. C'est-à-dire que elle est très précise dans tous les souvenirs qu'elle raconte, mais elle a une façon de dire les choses qui ne cherche pas à plaire, en fait. Elle cherche pas à plaire et peut-être même qu'elle cherche un peu à déplaire ou en tout cas à nous déranger. Je prends un exemple. Le tatouage. Donc là, on est dans la partie où elle raconte son arrivée à Auschwitz. Encore une fois, très précise, minute par minute, tous les lumières, les sons, la mémoire est d'une précision intacte. C'est très, très impressionnant parce que c'est quand même une femme qui a 80 ans au moment où elle parle. Et elle dit, voilà, il y a ce moment du tatouage. Alors, ça fait pas mal, le tatouage, mais au moment où on vous tatoue, vous comprenez quand même que ça va rester. Et que donc, quelle que soit l'issue de ce que vous allez vivre dans le camp, ça va rester toute votre vie, quoi. Ça va vous suivre toute votre vie. Et alors voilà, ça c'est un témoignage, on peut dire, assez classique sur le tatouage. Oui. Et après, pardon, je termine. Elle dit, mais vous savez... c'est assez pratique, en fait, d'avoir un numéro tatoué sur le bras, parce que moi, après, par exemple, quand je suis allée dans les hôtels et qu'il y avait un coffre-fort et qu'il fallait un code secret, j'utilisais le numéro de mon tatouage parce que je ne pouvais pas l'oublier vu que je l'avais sur le bras. Et donc, on sent que Catherine Bernstein est un peu déstabilisée parce que...
Oui.
Voilà, utiliser le numéro d'un tatouage pour un coffre-fort d'hôtel, il n'y a que Simone Veil qui peut dire ça, d'une certaine façon. Et donc là, il y a de l'irrévérence, il y a quelque chose qui nous bouscule un peu. Et en même temps, elle le dit, parce que c'est une façon pour elle de témoigner aussi de ce que ça veut dire vivre toute sa vie avec ça, en fait.
Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a comme un basculement aussi avec cette histoire de tatouage. On dirait que c'est là que vraiment elle s'ancre dans l'idée que eh bien, ce qu'elle a vécu, elle est en train de vivre, va basculer sa vie. Va faire basculer
exactement.
Sa vie. C'est le moment. Et alors, vous le disiez aussi, mais c'est impressionnant, cette précision, ce souci du détail. Nous, parfois, quand on veut se rappeler de quelque chose eh bien, qui a eu lieu il y a un an, on ne peut pas décrire des choses comme ça. Et c'est quelque chose qui est assez fréquent pour les survivants de la Shoah. Ils ont une mémoire très précise de ces éléments. Est-ce que vous avez une explication, vous qui avez finalement travaillé sur plusieurs témoignages ?
Je pense, pour en avoir parlé avec certains ou pour avoir lu des choses là-dessus, je pense aussi qu'à partir d'un certain moment, qu'on peut peut-être dater du tout début des années 80, si vous voulez, le témoignage prend une autre dimension pour le témoin, Pourquoi ? Parce que apparaît le négationnisme. Faurisson, 1978, la tribune de Faurisson, Auschwitz, on a gazé, oui, mais des poux. Le négationnisme arrive, donc cette parole, elle est niée, elle est remise en question. Et à ce moment-là, les témoins vont prendre conscience de l'importance de leur témoignage, c'est-à-dire que le témoignage devient une preuve. Et eux-mêmes, en fait, leur personne même, montrer justement le tatouage, etc., ça devient une façon de prouver et de répondre et de toujours témoigner avec en tête qu'on répond à la possibilité que cette expérience soit niée. Et donc, je pense que la précision vient de là aussi, de cette conscience qu'il faut être précis parce qu'il faut qu'on puisse rien trouver à dire, si vous voulez.
Et alors, elle raconte des choses qui sont étonnantes. Par exemple, quand elle arrive, elle est avec une amie, hein, une camarade de Nice, et qui avait sur elle un flacon de parfum. Les capots femmes voulaient récupérer le maximum de choses sur les juifs qui arrivaient. Et donc, elle se vide avec son amie le flacon de parfum sur elle pour que personne n'en profite. Et elle raconte, et ça fait partie aussi de l'irrévérence, du politiquement incorrect, et que chaque fois que elle est dans une parfumerie et qu'elle achète ce parfum, elle se rappelle de cet événement. C'est quand même incroyable.
C'est un moment incroyable aussi, oui. Ce truc du parfum, c'est vraiment ne rien leur laisser. Et puis surtout, ça montre aussi comment fonctionne cette mémoire et peut-être comment justement elle arrive à être si précise. Là, c'est par l'odeur. Et c'est très. Il y a un silence. Elle raconte ce moment où elles se sont vidées le flacon sur elle. Il y a un silence justement, et puis elle dit « De temps en temps, j'achète encore aujourd'hui ce parfum pour me souvenir d'elle. Mm-hmm. » Et voilà, c'est...
Alors, dans cette idée aussi d'irrévérent, je ne sais pas si on peut le classer vraiment dans cette catégorie-là. Elle qui a été une féministe avec les causes qu'elle a défendues, eh bien, on c'est plus qu'une impression. Hein. C'est que finalement, sa beauté, le fait qu'on ne lui coupe pas les cheveux, le fait qu'elle avait une belle peau, elle parle de peau brune, a créé des avantages dans les camps par lesquels elle est passée. Et ça paraît quand même fou. Bah, la déshumanisation s'arrête devant une jolie femme.
Mmh. Oui, et surtout, ce qui est important à dire, c'est que le moment où sa beauté va apparemment lui sauver la vie, elle-même, elle dit d'ailleurs, aujourd'hui, je ne comprends toujours pas pourquoi cette femme m'a sauvée, mais c'est un regard sur sa beauté, mais venant d'une femme, venant d'une capo femme et pas venant d'un homme. Elle parle aussi des relations avec les hommes et de comment gérer le désir sexuel des hommes dans les camps.
Qui lui donnait des petites choses en plus, etc. Et cette femme qui lui sauve la vie parce qu'elle lui permet de changer de camp et d'aller dans un camp un peu plus, entre guillemets, humain. Elle passe d'ailleurs devant le docteur Mengele.
Tout à fait.
Comme une lettre à la poste.
Ouais. Elle lui dit « Tu es trop belle pour mourir ». Ce que Simone Veil dit ne toujours pas comprendre au moment où elle témoigne, donc à l'âge de 80 ans, elle dit « je comprends toujours ». Elle avait aucun intérêt à faire ça, je comprends pas pourquoi elle l'a fait. Ceci dit, quand on regarde des photos d'elle jeune, elle est restée, mais moi c'est vrai que j'en ai beaucoup regardé aussi là pour me plonger dans ce témoignage. Et je me disais, mais sa beauté est absolument sidérante. C'est vrai qu'elle est d'une... C'est pas forcément ce qu'on a retenu d'elle en premier lieu, et tant mieux. Mais par ailleurs, quel visage elle a, quel regard elle a, c'est rare. Enfin, il y a quelque chose... Et donc, on peut imaginer, en effet, que ça ait pu sidérer cette capo d'Auschwitz qui va, en effet, lui proposer de la transférer au camp de Bobrek, à quelques kilomètres de là, qui est plutôt un camp de travail. Et donc, Simone va répondre « D'accord, à condition que je parte avec ma sœur et ma mère, avec qui elle est, à ce moment-là, détenue. »
Et alors, c'est plein de petites anecdotes. Hein. Vous les découvrirez en regardant le podcast ou le témoignage intégral sur le site de l'INA. Par exemple, l'histoire des poux. Parce que sa mère va mourir à cause d'une maladie créée par ses poux. On courait après le moindre vêtement. Il y a ce chandail qui paraissait en angora et en fait qui était recouvert de poux. Mmh. Et c'est des petites anecdotes qu'on a de l'intérieur et qu'on n'a jamais lues dans des manuels d'histoire. Et c'est ça aussi qui est intéressant comme témoignage pour l'histoire.
Oui, tout à fait. Il y a des... et là encore, c'est grâce à la précision de sa mémoire et à... Et je pense à l'effort qu'elle fait. Elle donne beaucoup dans ce témoignage. Et je pense que le fait qu'elle sache donner pour après sa mort apporte une dimension encore plus forte à tout ça, parce que c'est pas du tout comme les témoignages, si vous voulez, on n'est pas dans une interview publique. On est vraiment dans une archive pour laquelle elle sait que ce sera plus tard, que ce sera pour plus tard. Et d'ailleurs, elle parle beaucoup, ça c'est aussi une autre chose très bouleversante dans son témoignage, c'est quand elle parle de ses enfants et de ses petits-enfants, c'est-à-dire quand elle aborde elle-même la question de la transmission. Et en fait, à 80 ans, elle dit, voilà, il reste pour moi dans la Shoah, elle dit, pour parler de la Shoah, elle dit le fait même. Y a quelque chose dans son questionnement à ce moment-là qui devient presque métaphysique. On sent qu'elle se demande à la fin de sa vie, elle arrive à la fin de sa vie et elle se demande mais comment, en fait, comment ce fait-là a été possible, en dehors même du fait qu'elle l'ait vécu. Elle s'interroge sur le fait et elle dit que ce qui l'obsède, c'est la question du meurtre, de l'assassinat des enfants, qu'elle y pense sans cesse. Et elle dit, voilà, sur mon lit de mort, je ne vais pas penser à mes enfants, je ne vais pas penser à mes petits-enfants. Je sais que je penserai à ça. Je penserai aux enfants dans les chambres à gaz. Et elle va même jusqu'à dire, ce qu'elle n'aurait peut-être pas pu dire si l'archive avait été diffusée de son vivant, elle va même jusqu'à dire, quand mes enfants sont nés, quand mes petits-enfants sont nés, c'est à ça que j'ai pensé. Et elle dit, évidemment, je ne peux pas leur dire.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Léa Weinstein, productrice du podcast « Seul l'espoir apaise la douleur », avec des témoignages de déportés. C'est très intéressant ce que vous venez de dire, parce que, comme on l'a dit, il y a avant la Shoah, il y a pendant la Shoah, il y a après, et la guerre se termine, et sa vie d'après reste totalement infusée par ces événements. Et même quand, par exemple, elle va jeter un regard sur l'État d'Israël, eh bien, elle est encore imprégnée de la Shoah. Elle dit... pourquoi, en fait, la fondation d'Israël a été importante. Importante parce que j'avais pris conscience au camp, à Birkenau, avec mes camarades, par exemple pour les Polonaises, qu'il était hors de question de rentrer en Pologne, mais de gagner la Palestine et quelquefois les États-Unis. Et c'est une des rares fois où on l'entend s'exprimer sur l'État d'Israël. Et même dans ses engagements politiques, eh bien, la Shoah est toujours là.
Oui, oui, bien sûr. Et dans ses engagements politiques. Alors, elle parle aussi beaucoup. Donc ça, on le retrouve en effet dans l'intégrale. Dans le podcast, on ne l'a pas gardé parce qu'on s'arrête vraiment au moment du retour. Mais elle parle aussi beaucoup de la réconciliation franco-allemande, de l'Europe, de l'importance que l'Europe va avoir pour elle. Et qui, tout ça, évidemment, est très lié à son expérience de la guerre. Et aussi, même dans son engagement politique français, enfin je veux dire à l'intérieur, on peut parler de la question de l'avortement et des liens que ça peut avoir pour elle avec ce qu'elle a vécu, mais elle rappelle aussi dans le témoignage qu'elle a d'abord le premier poste politique qu'elle a occupé, c'est au ministère de la Justice, et c'est la question des droits des prisonniers, dont elle explique qu'évidemment elle est entièrement liée pour elle à ce qu'elle a vécu dans les camps. Et donc oui, cette expérience va rester comme un espèce de prisme à travers lequel toute sa carrière politique va se construire, même si au départ, elle ne le dit pas. Au départ, quand elle devient ministre, etc., personne ne l'identifie comme rescapée. C'est ça qui est intéressant.
Et là, elle le dit clairement. Elle dit dans son témoignage, mon militantisme européen est venu de là. Et elle en parlait, elle dit qu'elle en avait même parlé dans les camps avec sa mère, qu'il fallait pardonner, et bien pardonner pour éviter qu'une autre catastrophe ait lieu. Et la seule chose, finalement, dans son témoignage, qu'on sent qu'elle a du mal à pardonner, et bien c'est l'assassinat des enfants, et vous l'avez bien dit. Et c'est ça aussi qui est très, très émouvant.
Oui, tout à fait. Et elle a une formule que j'aime beaucoup, parce que je trouve qu'elle est très actuelle. Elle dit que le devoir de mémoire, pour elle, ça ne veut rien dire. Et il y a un silence encore et elle dit « La mémoire, c'est pas un devoir, c'est un besoin. » Et en fait, voilà, je pense que c'est très actuel parce que l'idée de devoir de mémoire a mal vieilli, je pense, a été peut-être mal comprise, n'a pas été très bénéfique. Par contre, si voilà, on pouvait défendre l'idée que tout le monde a besoin de mémoire et donc tout le monde a besoin de se souvenir de ce qui s'est passé. Je pense que voilà, c'est une belle idée, une idée forte et qui, pour le coup, peut s'inscrire dans la durée.
Et qu'elle a essayé de véhiculer justement quand elle était à la tête de la Fondation. Mmh. Alors, il y a trois choses hein, dans ce témoignage. Il y a un podcast, il y a une interview intégrale et puis il y a un livre, « Seul l'espoir apaise la douleur » chez Flammarion qui vient de paraître et qui est préfacé par Pierre-François et Jean Veil, ses enfants. C'est l'intégralité du témoignage qui est repris, c'est le podcast, qu'est-ce que c'est dans ce livre ?
Alors, en fait, vous avez donc cette collecte de témoignages qui a été faite en 2006 par l'INA et la Fondation. C'était un témoignage filmé. Donc ça, sur le site de l'INA, vous avez le témoignage filmé, intégral, qui dure presque 5h30. Et vous avez également sur le site de l'INA les 100, je crois qu'il y en a 111, je voudrais pas dire de bêtises, mais les 110 autres témoignages qui sont également en ligne et que vous pouvez visionner en intégralité. Donc ça, c'est la première chose, c'est ces vidéos. La deuxième chose, c'est donc le podcast sonore. À partir de cet entretien-là, on a fabriqué une série en 4 épisodes qui dure un peu moins de 30 minutes. Donc, on a beaucoup enlevé, c'est presque la moitié, c'est pas une version intégrale. Mais voilà, c'est quelque chose qui s'écoute et qui est plus resserré vraiment sur le témoignage de sa déportation en 4 épisodes avec, vous verrez, voilà, une voix off qui est des textes, des petits textes que j'ai écrits et qui sont dits par une comédienne. Ça, c'est la version en podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes, les applications. Et ensuite, ce témoignage, il a aussi été transformé en un livre donc, que vous venez de citer chez Flammarion, qui s'appelle pareil, « Seul l'espoir apaise la douleur », et qui se lit plutôt comme un récit, c'est-à-dire il est tiré de l'intégralité, mais les questions ont été retirées. Donc, quand vous lisez, vous avez l'impression de lire un récit autobiographique où Simone Veil voilà, repart de son enfance et va jusqu'à la fin de sa carrière politique.
Et vous, dans tout ça, Léa ? Dans votre quête d'identité, de mémoire, de produire un tel document qui est vraiment, enfin, on peut le dire, hein, qui est le témoignage le plus pointu, le plus précis sur la vie de Simone Veil et ses engagements. Comment ça se situe dans votre quête ?
Bah, ça se situe très très naturellement parce que voilà, en tout cas, ce qu'on en a fait, c'est vraiment du son. C'est beaucoup autour de la voix, autour des silences aussi, dont on parlait tout à l'heure et qui continue de m'intéresser beaucoup. Donc, ça a pleinement son sens, voilà, dans le travail et puis dans le questionnement que j'essaye de construire petit à petit, en me laissant guider. Vous voyez, là encore, c'est un peu les hasards de la vie. Donc, je me laisse guider par ça et puis j'espère que petit à petit, ça s'emboîte et ça fabrique quelque chose qui a du sens. Mais en tout cas, c'était une expérience très, très forte pour moi d'avoir l'impression de vivre avec sa voix, en fait, pendant des mois. Ça, c'était vraiment un cadeau pour moi, de vivre avec sa voix, avec sa précision et avec cette irrévérence. Ça m'a beaucoup apporté, je pense.
Est-ce que vous travaillez sur d'autres projets liés à la mémoire, la transmission, l'identité ?
Oui, alors je travaille sur une série de podcasts sur les œuvres d'art spoliées pendant la guerre aux familles juives en ce moment, donc que j'ai bientôt terminé. Et puis, j'écris de nouveau sur Kafka. Donc c'est une autre forme de mémoire, c'est avant la Shoah, mais j'essaye de raconter une histoire... Voilà, avec Kafka, kafkaïenne elle aussi, et qui nous emmène après la création d'Israël aussi. Donc,
Et on revient peut-être au point de départ aussi de votre formation,
c'est ça.
La thèse de philosophie. Alors il y a une question classique et néanmoins difficile pour conclure. Je me demande si elle s'adapte bien à cette émission, mais je vous la pose quand même. C'est d'inciter les auditrices et les auditeurs de la fréquence juive eh bien, à voir ce podcast, à lire ce livre, à voir le document sur l'INA. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire pour qu'ils le fassent ?
Je pense à la phrase d'une amie. Depuis que le podcast est en ligne, voilà, les amis écoutent et m'envoient parfois des mots sur ce que ça leur fait. Et là, juste hier, j'ai reçu un mot d'une amie qui m'a beaucoup touchée elle me dit, c'est incroyable parce qu'on entend sa voix, donc la voix de Simone Veil, et quand on l'écoute, on ne sait jamais si elle a 14 ans ou si elle a 100 ans. Et je pense que voilà, si vous avez envie d'être plongé dans cette figure de Simone Veil, qui en effet est à la fois aussi irrévérente et aussi audacieuse qu'une jeune fille de 14 ans, et en même temps aussi sage qu'une femme qui aurait eu 100 ans. Eh bien, écoutez-la.
Seul l'espoir apaise la douleur, ça aussi, hein, le titre n'est pas anodin. Donc, c'est le podcast que vous produisez, Léa Weinstein, et que, eh bien, on incite évidemment à écouter, à regarder et à lire. Merci infiniment. Et il faut vraiment, j'insiste, hein, c'est un témoignage très, très important. Alors, sur la vie d'une grande femme et aussi sur une époque qu'on a l'impression de connaître, mais là, qui est vécue de l'intérieur. Et c'est vraiment utile pour l'histoire de pouvoir s'intéresser à ce podcast. Seul l'espoir apaise la douleur, avec le témoignage bouleversant de Simone Veil et puis les autres témoignages aussi qu'on peut découvrir sur le site de l'INA. Merci infiniment,
merci
et à très bientôt.
Merci à vous, merci.